Bonsoir. Depuis quelques semaines, plusieurs personnes sont tuées dans le Grand Nord et en Ituri, dans des attaques attribuées aux rebelles ougandais ADF. Dans le territoire de Beni, 16 personnes ont été tuées hier mardi et lundi dernier par des ADF dans trois villages du groupement de Batangimbaou. Le dimanche 20 novembre, 5 autres personnes, dont 2 militaires, sont mortes et 15 autres enlevées lors d'une attaque des rebelles ADF au village Malibongo dans la chefferie de Baïmaboga en Ituri. Ces attaques sont enregistrées alors que 1200 militaires de l'armée ougandaise sont déployés depuis près d'une année à Beni au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre des opérations conjointes avec les FRDC pour traquer les rebelles ADF. Près d'une année après, quel bilan dresser des opérations conjointes FRDC-UPDF? Nous en parlons ce soir avec Mwindo Nzangi, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est élu de la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Christian Outeki, membre de la société civile de l'Ituri, les responsables du G5, groupe des 5 communautés, victimes des atrocités des groupes armés dans cette province. Christian Outeki, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste. Je salue aussi en même temps l'excellence du ministre Mwindo Nzangi.
Et Chobert Agenonga, professeur à l'université de Kinshasa et université catholique du Congo. Il est spécialiste dans le domaine des études des sécurités, des géopolitiques et des sociologies militaires. Il est aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo. Jacques Ansigle, professeur Chobert Agenonga, bonsoir.
Bonsoir.
À Beni au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 93.2 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, au Nord Kivu, 16 civils ont été tués en l'espace des 2 jours dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans 3 villages du groupement de Batangimbaou dans le territoire de Beni. Selon le président de la société civile de la localité de Mamové qui livre l'information, il s'agit là d'un bilan provisoire d'une double attaque des assaillants hier mardi et lundi dernier. Des soldats FRDC déployés dans la région étaient intervenus pour repousser les assaillants après le drame, indique notre source André Kitenge pour les détails.
Cette double attaque a eu lieu en pleine journée d'hier mardi et du lundi dans 3 villages du groupement de Batangimbaou, à savoir Moliso Makakwa, Akwekwe et Kalalangwe. Nous sommes à la limite entre la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Selon le président de la société civile de la localité de Mamové qui livre l'information, toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche dans leurs champs respectifs. Kinos Katuo indique que les civils tués sont tous habitants de Mamové et Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Cette situation a causé un déplacement massif de la population vers des endroits jugés sécures, indique la même source. Tout en appelant la population à la vigilance, cet acteur de la société civile recommande au FRDC de multiplier les patrouilles de combat dans la région afin de protéger la population civile. Il plaide également pour le renforcement des FRDC afin de faire face à ces attaques armées à répétition dans la région. Tous nos efforts pour joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 pour obtenir la version de l'armée se sont avérés vains. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, c'est 5 personnes, dont 2 militaires qui sont mortes et 15 autres ont été enlevées au cours de l'attaque dimanche dernier des rebelles ADF au village de Malibongo dans la chefferie de Baïmaboga à 120 km au sud de Bunia. Selon des sources concordantes, ces rebelles ont incendié certaines maisons et se sont livrés au pillage systématique des biens des habitants qui ont fui à Boga Centre. La société civile d'Irumu indique que les FRDC ont repoussé l'ennemi après des combats entre les deux parties. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon des sources concordantes, un groupe d'une dizaine de rebelles des ADF munis de fusils et d'armes blanches a fait irruption vers 11h locale dans une église locale pendant le culte au village Malibongo dans la chefferie de Mitego. Ils ont tiré plusieurs coups de feu dans l'église et saccagé tous les biens qui s'y trouvaient. S'en était suivi une débandade totale et les fidèles se sont rapidement dispersés. Le coordonnateur de la société civile locale, John Kaboro, avance un bilan provisoire des 3 civils tués et dont 2 militaires qui sont intervenus pour chasser les assaillants. 4 autres personnes ont été blessées et sont admises dans une structure médicale à Boga Centre. D'autres sources proches de l'église indiquent que 15 fidèles ont été pris en otage par ces hommes armés. Ces miliciens se sont ensuite livrés au pillage des biens dans des boutiques et presque toutes les maisons, dont 3 ont été incendiées. L'armée est intervenue pour repousser l'ennemi, affirment des sources de sécurité. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Merci Ezekiel Muzalia pour tous ces détails. Mouindo Nzangi, je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes élu de la province du Nord Kivu. L'Ouganda a lancé mardi 30 novembre 2021 en concertation avec Kinshasa une opération militaire en RDC contre les positions rebelles des forces démocratiques alliées ADF. En sigle, les ADF sont accusés par le Congo des massacres des civils et par Kampala d'être derrière les récents attentats dans ce pays. Aujourd'hui, près d'une année après, les civils continuent d'être massacrés par ces rebelles ADF. Quel bilan peut-on dresser de ces opérations conjointes?
Bon, je crois que je ne vais pas m'aventurer à donner une quelconque tendance par rapport à positif, négatif ou mitigé. Je voudrais seulement dire que le pays vit aujourd'hui une situation sécuritaire qui est très grave. Et que c'était à notre demande, d'ailleurs, que nous avions demandé au gouvernement de pouvoir mutualiser ses efforts avec l'Ouganda, qui avait aussi les EDF comme menace, et nous aussi, puisque nous avions les EDF comme menace, puisqu'on se disait à ce temps-là que cela pourrait nous aider à pouvoir juguler cette question au niveau de l'Est du pays. La situation que nous observons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des opérations. Lorsque les opérations ont été lancées, des bastions des EDF ont été bombardés dans les profondeurs, notamment dans le pays de Matalinga et une partie du territoire du Rumu et dans les Rwenzori à territoire de Beni. Nous observons malheureusement que les bastions des EDF ont un tout petit peu bougé, malheureusement vers les zones les plus habitées, ce qui fait que les Bachou en territoire de Beni est devenu un bastion très important des EDF qui commence maintenant à lancer des attaques sur Kabasha, sur Maboya et sur Butembo, puisqu'ils l'ont fait en les faisant contre les prisonniers. Les bastions des endroits qui étaient pourtant protégés, qui n'étaient pas encore touchés, comme Biakato, à territoire de Mambasa, comme Mangina, à l'ouest de la route Beni-Erigeti, et une grande partie de la province de Ituri, à territoire de Mambasa ou à Irumu, qui sont fortement touchés par ces attaques, puisque les EDF, comme ils ont été fortement bombardés dans les côtés de la frontière avec l'Ouganda, ont glissé vers la partie qui est occupée par nos FRDC, qui, on doit le dire aujourd'hui, sont sur deux fronts. Le front du M23 et ce front de l'Ituri et du Nord Kivu, notamment dans sa partie nord, et donc qui n'arrive pas à pouvoir contenir les attaques répétitives de l'ADF contre la population dans cette zone-là. Donc c'est ça la situation qu'on décrit sur le terrain. Il est vrai que dans certaines parties du territoire de Beni, notamment dans les Watalinga et une partie des Rwenzori, on n'a plus la même intensité d'attaque comme il y avait à cette époque-là, mais malheureusement, les attaques ont changé de terrain et deviennent beaucoup plus virulentes que ça se faisait avant. Donc, c'est ça le bilan qu'on peut décrire cette situation pour dire que la menace s'est déplacée malheureusement de la zone frontalière vers la zone de profondeur.
Les attaques ont changé de terrain et sont devenues plus virulentes. Faut-il continuer avec ces opérations conjointes, monsieur le ministre?
Alors, cette question, je ne saurais pas répondre à chaque minute, puisque je ne suis pas en charge du secteur de la défense.
En tant qu'élu du Nord Kivu, pensez-vous que ces opérations doivent se poursuivre?
Je sais qu'il y a une évaluation qui va se faire, qui se fait déjà, et qui va continuer à se faire entre l'état-major des FARDC et l'état-major ougandais pour voir comment cette question peut être résolue. Tout ce que je sais et ce que je reçois, notamment de la part des populations qui vivent, par exemple, à Lungupa, à Kainama, à Nobili, ils nous disent, lorsque vous allez envisager les retraits des Ougandais, il faut absolument que vous puissiez aussi avoir un plan de voir comment les FRDC vont sécuriser durablement la zone qui est épargnée aujourd'hui par les attaques. Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous disent qu'il ne faut pas que vous preniez les décisions qui vont avoir un impact sur les zones qui étaient plus ou moins déjà sécurisé. Donc vous comprenez aujourd'hui, attaque le gouvernement congolais, nous sommes dans un grand embarras. Est-ce qu'on se débarrasse de ces forces ou bien on ne le fait pas? Parce que nous sommes non seulement embarrassés par cette opération, par le fait qu'il n'y a pas une grande efficacité dans les profondeurs, mais aussi par le fait que nous recevons des messages, des appuis indirects ou directs de notre voisin, notamment avec la menace du M23. Donc ça nous met quand même dans un embarras, mais l'attaque est responsable, effectivement, de retenir compte aussi du point de vue des populations qui sont dans les zones où ils sentent que le retrait des troupes ougandaises peut encore causer beaucoup plus de dégâts que leur média. Donc je crois que l'état-major qui devra faire cette évaluation pourra tenir compte de tous ces paramètres.
Si les troupes ougandaises s'est retirées des zones qui sont encore sécures, les FRDC pourraient les remplacer, M. Mwindonzangi. On n'a pas assez d'éléments FRDC pour prendre la relève.
Je ne suis pas habilité à donner ces informations. Ce que nous observons, la partie où il y a les sécurités, c'est pratiquement la partie. La partie aujourd'hui qui est menacée, c'est la partie où nous n'avons que les éléments FRDC. Et aujourd'hui, avec des menaces de gauche à droite, on sent vraiment qu'il y a une certaine fébrilité. Et donc, on doit tenir compte de ces paramètres-là avant de prendre une décision comme celle-là.
Christian Outeki, vous êtes membre de la société civile de l'Ituri et responsable du G5, groupe des 5 communautés, victimes des atrocités des groupes armés dans cette province. Quel bilan vous dressez des opérations conjointes FRDC-UPDF près d'une année après son lancement?
Merci madame. Je vous disais, avant que je puisse répondre à cette préoccupation, je voudrais une fois de plus saluer tous les co-débatteurs, dont l'excellence Mwindonzangi ainsi que le professeur Patrick Tchombe, mais aussi saluer en même temps tous les auditeurs de la radio Capi et vous-même aussi. En fait, avant que je puisse parler d'un bilan quelconque qu'on pourrait dresser des opérations UPDF FARDC, je crois qu'il faudrait qu'on puisse tout de même rappeler le contexte de la mutualisation, comme venait aussi de dire l'excellence Mwindonzangi. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans sa volonté de vouloir venir à bout des atrocités que la partie Est de la République démocratique du Congo était de connaître, avait évidemment bien voulu mutualiser les forces UPDF et FARDC afin de venir à bout de ces miliciens, de ces terroristes des ADF. Et pour la société civile et pour nous, la population, c'était une décision salutaire que nous avons dit tous ensemble devoir accompagner et appuyer les opérations militaires de cette militarisation des forces, afin qu'effectivement nos communautés, nos populations, l'Ituri et l'ensemble de la province, des provinces de l'Est, dont l'Ituri et le Nord, puissent arriver à recouvrer sa paix. Malheureusement, madame, le constat est tel que les opérations telles menées ont fait disperser d'une manière ou d'une autre les miliciens, ces terroristes des ADF dans d'autres coins de la République ou dans les endroits où ils n'opéraient pas. C'est entre autres dans les territoires, par exemple, de Mambasa où ces terroristes des ADF en province de Turin ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, Mambasa est gravement menacée. Et si Mambasa est menacée, cela va de soi que la province sert de la Tchopo est aussi en même temps menacée. Le territoire de Ndjougou, parce que Mambasa, c'est un des territoires qui touche directement au territoire de Ndjougou, est en même temps menacé. Et ça, ce sont des actes qui font en sorte que pour nous, comme population, nous sommes à mal de comprendre comment alors les opérations ne pouvaient que se limiter dans un seul coin où se trouvent actuellement les militaires UPDF qui mènent ensemble, bien entendu, les opérations avec les éléments des forces armées de la République du Congo. Je crois, à mon avis, que sincèrement, le bilan il faut compter ces opérations. Je crois que lui, qui donnait 4 et 10, ça risque même d'être trop. Ça risque d'être trop et que donc le bilan est mitigé. Mais qu'est-ce faut-il faire à l'heure actuelle? Je crois qu'il faudrait étendre un tout petit peu le champ d'action des opérations UPDF FARDC qui mènent les opérations conjointes. Il faudrait étendre tout parce que les terroristes ADF ont quitté l'endroit où ils opéraient jadis. Ils ont quitté cet endroit vers d'autres entités où maintenant, nous pensons que les opérations les ont fait disperser. Et que donc, il est plus important ou plus impérieux que la mutualisation
aillent vers ces forces négatives, puisqu'ils sont localisés, on sait là où ils opèrent, on sait les entités où ils contrôlent actuellement. Il faudrait que les forces de la République du Congo, ensemble avec la force ougandaise, aillent vers les entités où ils se trouvent, ils opèrent actuellement, afin de les neutraliser. Parce que si on ne va pas, on ne mène pas les opérations vers eux, je crois que finalement c'est la population qui va mourir. Et nous comptons ici à Ituri et même au Nord Kivu, on comptabilise le nombre de morts du jour au lendemain. Et pourtant, l'espoir de la population est posé sur cette mutualisation des forces pour que ça puisse mettre vraiment à terme les atrocités que nous sommes en train de connaître avec tous ces groupes armés, non seulement les UPDF, mais aussi d'autres groupes armés étrangers et locaux qui opèrent dans l'ensemble des provinces Nord Kivu et Ituri.
Alors, que pensez-vous de ce que disent une certaine opinion que l'objectif de l'armée ougandaise c'était de repousser loin de la frontière ougandaise ces rebelles ADF, les repousser à l'intérieur du territoire congolais?
Bon, je pense que les texte de la mutualisation n'avait pas cet objectif-là. Ou si quelques-uns le pensent, parce que ils sont en train de faire un constat tel que les militaires, les miliciens, les services de l'ADF sont entrés plus dans l'intérieur de la province, ils sont maintenant trop loin, où ils se détachent, ils vont trop loin de la frontière avec l'Ouganda. Mais je pense aussi en même temps, parce qu'il est certes vrai que la question de la nationalité, la question de la défense de la patrie congolaise revient principalement aux forces armées de la République du Congo. Ce sont les seuls Congolais qui peuvent effectivement se sacrifier et mourir pour la cause de la patrie, pour la cause de la nation. Je pense que dans les mêmes opérations, puisque c'est une opération conjointe, nos forces de la République démocratique du Congo doivent se dépasser, doivent encore fournir beaucoup d'efforts, parce que ce sont eux qui doivent effectivement mourir pour la cause de la nation. C'est vrai que les autres viennent pour nous apporter un secours, un appui, mais la défense de la patrie revient à nous les Congolais, à nous les nationales. C'est nous qui devons assurer la défense de notre patrie à premier lieu. Les autres viennent à rescousse, ils viennent au secours, mais c'est nous qui devons nous sacrifier principalement pour mourir effectivement pour la cause de la sécurité, pour la cause de la paix. Et donc, même si les autres frères ougandais, ils sont là pour nous aider, mais ils peuvent avoir un agenda, peut-être, comme les uns disent, de disperser ou de repousser loin l'ennemi de la frontière afin qu'il soit sécurisé, mais il revient à nous maintenant de contrer cet ennemi-là pour que l'ennemi ne puisse être réduit vraiment au silence afin qu'il ne puisse pas opérer, continuer à commettre des actions contre la population civile.
Donc, Christophe, le bilan est mitigé. Les opérations doivent se poursuivre, mais il faut étendre les champs d'action.
Évidemment, parce que si aujourd'hui on dit qu'il faut qu'on arrête avec les opérations, évidemment, il revient, les rôles, comme je l'ai dit, régaliers de la défense de la patrie revient au FARDC. Mais les entités qui sont sous contrôle actuellement des UPDF risquent d'être laissées vides. C'est comme ça que l'appel patriotique est lancé sur l'ensemble de la solution de l'État, lance cet appel patriotique à tous les jeunes, à toute la jeunesse congolaise de participer à la défense dans sa rôle au sein de l'armée congolaise et d'assurer aussi d'une manière patriotique la défense. Moi, je pense que les opérations doivent se poursuivre, mais il faudrait que les militaires des UPDF qui sont à République du Congo dans l'opération au Shujaa puissent étendre les champs d'action et comprendre qu'il n'est pas seulement question de laisser l'ennemi de disperser l'ennemi, mais il faut effectivement arriver à réduire la capacité de l'usage de l'ennemi et de le contrer à un désarmement forcé. Et là c'est l'unique solution qu'on peut entreprendre. Mais il faudrait aussi dire, il faudrait qu'on se dise que au sein des UP, en fait au sein des ADF, il y a aussi des sujets congolais. Il y a aussi des sujets congolais, parce que l'opération aujourd'hui, avec les programmes nationaux de désarmement, d'organisation, de réception communautaire, les groupes armés étrangers, ils ne sont pas éligibles, dont les terroristes des ADF. Mais quel sera le sort de ces enfants congolais qui se retrouvent dans ces groupes, dans ces mouvements terroristes? Parce que moi j'ai mené quelques études, quelques recherches en rapport lorsque j'étais en train de faire mes études de troisième cycle. Et j'ai beaucoup étudié le phénomène ADEF. Et on retrouve dans ces groupes ADEF, il y a des sujets congolais. Et ces sujets congolais qui ne sont pas des étrangers, quel sera leur sort? Je crois que non seulement on doit devoir contraindre ces gens à démissionner ou à les désarmer de force, mais il y a un sort que les programmes devaient aussi réserver à ce qui concerne le traitement à donner à ces sujets congolais qui se retrouvent être comme membres d'un groupe terroriste qui est du reste un groupe étranger.
Professeur Chobera Genunga, professeur à l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Vous êtes aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Malgré les opérations conjointes FRDC et UPDF, les massacres se poursuivent dans le Grand Nord et dans la province de l'Ituri. Quelle analyse vous faites de cette situation?
Il y a deux variables importantes qu'il faudrait prendre en considération. La première tient fondamentalement à la divergence d'intérêts et dans l'instabilité à l'est de la RDC. Et le constat que l'on fait sur le terrain, c'est que l'Ouganda n'a pas forcément pour objectif de mettre un terme à l'instabilité à l'est. Par contre, et c'est l'Ouganda qui est responsable de l'instabilité à l'est de la RDC. On a vu évidemment le soutien que l'Ouganda a procuré au M23. Et par ailleurs, il est aussi important de souligner la faible coordination qui a eu entre les troupes ougandaises et celles de l'armée congolaise. Le 30 novembre dernier, lorsque l'Ouganda a engagé des frappes contre les positions des ADF en Ituri, et on a constaté que de la RDC, il n'y a pas eu de dispositif pour contenir ces rebelles. Ensuite, en conséquence, ils se sont relocalisés vers les entités situées en profondeur de la RDC, vers le territoire de Mambasa. Et du coup, certains pensent que la mission de l'armée ougandaise ne consistait non pas à démanteler les bases de ZADF, mais plutôt à les relocaliser plus à la profondeur du pays. Et je pense que ce qui pourrait confirmer cet argumentaire, c'est le discours du fils de Museveni qui coordonnait ces opérations avant qu'il ne soit relevé de ses postes. Il annonçait d'ailleurs le retrait des troupes du contingent ougandais en du sol congolais. Un autre élément qui me paraît aussi important, c'est la faible coordination entre les unités qui sont déployées dans cette région. On constate que lorsque les opérations militaires s'intensifient du côté de l'Ituri, les ADF disposent d'une très grande marge de manœuvre. Elles ont la possibilité de se mouvoir paisiblement. Elles peuvent quitter Irumu pour se mouvoir vers Mambasa. Et elles peuvent quitter Mambasa pour entrer du côté de Beni. Et enfin, pour terminer, nous constatons qu'il y a la déficience d'effectifs sur le terrain. C'est ce qui rend les FRDC moins proactives, moins offensives que défensives. Et vous savez, dans la plupart des cas, les FRDC interviennent après les attaques et là aussi se pour repousser l'ennemi. Et quand l'ennemi est repoussé, c'est fini, il n'est pas pourchassé. Ce qui fait que les ADF continuent à être très actives. Et voilà, il y a aussi la question liée à l'inadéquation de l'approche militaire. L'approche militaire sur base de laquelle reposent les opérations militaires sont fondées sur les méthodes conventionnelles, et alors que l'armée fait face à une guerre asymétrique. Donc voilà autant de variables qui expliquent l'inefficacité de la mutualisation des opérations dans cette région, mais davantage des opérations militaires qui s'enlisent dans ces bourbiers d'insécurité qui n'a que trop duré.
Professeur Chobera Genunga, vous avez évoqué un problème d'effectifs sur le terrain. Est-ce parce que le gouvernement est plus focus ou c'est plus focalisé sur le M23 qu'on se retrouve devant ce problème d'effectifs dans le Grand Nord et en Ituri pour combattre les ADF?
Cette thèse n'est pas défendable. Vous savez que le territoire de Beni est parmi les territoires les plus surmilitarisé de la République démocratique du Congo. Même avant la résurgence du M23, il y avait des massacres. Et par contre, on a observé quand même certaines accalmies ces derniers mois. Vous savez que la dernière résurgence de massacres intervient pendant que on a observé une période d'accalmie. On pensait que c'était la fin de l'activisme des ADF, mais aujourd'hui on assiste à une nouvelle recrudescence. Je pense que dans cette région, bien évidemment, il y a la surmilitarisation du côté de Beni, alors que vers les territoires tels que Irumu, Mambasa, etc., on a plutôt un déficit, n'est-ce pas, en termes d'effectifs. Et pour s'en convaincre, vous savez que en plusieurs fois, les ADF ont perpétré des attaques sur la route nationale numéro 4. Mais là aussi, il n'y avait pas une position militaire qui pouvait intervenir de manière prompte. Et voilà un peu le constat que nous sommes en train de faire sur le terrain.
Alors, on va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreux auditeurs qui appellent pour réagir au thème de ce soir. Monsieur Mouindo Nzangi, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Mabela, je dis bien, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Cette puissance des opérations conjointes par des IPDF en Ouki, en Ituri et au Nord Kivu prouve à suffisance que la RDC ne peut pas résoudre la crise sécuritaire de la région de l'Est avec des États impliqués dans la déstabilisation de notre pays. Au lieu de continuer désespérément à externaliser la défense nationale et la sécurité de notre pays, régime en place devrait apprendre de ses échecs et se concentrer à réformer notre armée. Comment pouvons-nous attendre la pacification de notre pays par des États qui profitent de l'instabilité de notre pays pour continuer à exploiter cyniquement nos ressources?
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne. Monsieur le ministre, je pense que vous avez quand même saisi la préoccupation de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani.
Bien évidemment, et ce qu'il dit, c'est dans la droite ligne de ce que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dit. Il a demandé aux Congolais d'être mobilisés pour défendre leur pays. Je crois que le monde était très fort et cette mobilisation, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de tous. Et je voudrais insister sur cette question-là. On ne peut pas, à chaque fois qu'on sera attaqué, croire que quelqu'un viendra de l'Orient ou de l'Occident pour nous défendre. Je crois que le temps, les échecs qu'on a subis, les humiliations que nous continuons à subir, nous amènent nous tous à nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour protéger notre pays. Et ça ne passe pas par la première formule. La première formule, c'est de renforcer et de construire une armée capable de défendre notre pays. Ce n'est pas une affaire de c'est une affaire de tous les Congolais. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que nous, au niveau des universités, nous avons pris la résolution que dès l'année prochaine, nous allons commencer en première année L1, comme on appelle les premières licences LMD, les cours des valeurs et symboles de la République, qui va avoir une partie théorique et une partie pratique qui concerne des formations à la préparation à la formation militaire. Et nous croyons que c'est maintenant le temps pour que tous, au lieu de pleurer tout le temps sur les réseaux sociaux et de condamner notre armée ou de nous plaindre des humiliations que nous subissons, c'est le temps que nous tous, en tant que Congolais, nous puissions nous mobiliser pour encourager ceux qui ont encore l'âge de faire l'armée à le faire, pour encourager notre gouvernement à pouvoir équiper, à pouvoir renforcer les capacités militaires de notre armée afin de pouvoir nous défendre nous-mêmes. Donc nous ne compterons pas, on ne va pas compter tout le temps à avoir de l'aide de l'extérieur. Ça nous fait très mal, ça fait très mal à tout le monde, mais malheureusement nous sommes devant une situation pour laquelle nous sommes obligés aujourd'hui de mutualiser nos forces avec les autres pour que nous puissions venir à bout de ces groupes armés qui
malgré qu'ils sont à la base de la déstabilisation de notre pays, la RDC est obligée de travailler avec ces pays-là.
Je vais vous le dire froidement que nous, à partir de 2003, jusqu'à 2018, nous avons raté l'occasion de pouvoir former une armée véritablement républicaine. L'armée que nous héritons aujourd'hui, malgré le fait qu'à son sein, il y a des grands combattants, des grands patriotes, malheureusement, elle est ici de l'intégration générale, des brassages, des mixages, et tout cela ne nous a pas apporté que du bonheur. Ça nous a malheureusement apporté des personnes qui travaillent pour le compte de nos ennemis. Ce sont les humiliations que nous subissons, ou déjà est-il même devant l'ennemi qui n'a même pas commencé à attaquer. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qui se passe avec les M23, avec ce qui se passe avec les EDF, donc nous sommes dans l'obligation de former une armée. Mais en attendant, nous sommes obligés aussi de tenir compte des réalités que nous avons rencontrées. Nous sommes obligés de gérer en essayant de s'appuyer aussi sur l'appui que nous pouvons recevoir des autres.
Christian Teki, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. Quelles que soient les avancées que les officiers peuvent nous présenter tant que la population continue à être tuée par les ODIF à Beni et en Éthiopie, nous devons dire que le bilan est négatif en prenant le temps que les opérations conjointes de l'ODIF dans cette partie du pays, le temps de serait dans le but de trouver une solution à ce problème de sécurité.
Excusez-nous encore une fois pour la qualité de la ligne, un problème de réseau. Christian Oteki, comment vous réagissez aux propos de cet auditeur?
Évidemment, l'auditeur a évidemment raison parce que une année après, l'opération continue, mais il n'y a pas un résultat palpable. La menace demeure à sa place. Moi, je crois que ce qu'on peut, on peut se rappeler tout d'abord, c'est que mener une guerre contre le terrorisme, c'est pas si facile. C'est trop complexe. Mais il est tout à fait normal, naturellement, que lorsqu'on mène une guerre contre le terrorisme, il faut que les États conjuguent leurs efforts. Et ça, c'est une obligation internationale, une obligation qui ressort d'ailleurs de la résolution 1368 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, déjà adoptée en 2001 au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, qu'il faut, c'est une obligation pour les États, normalement, de se secourir. De s'entraider, parce que une frappe terroriste va toujours au-delà de la frontière, au-delà d'une limite naturelle d'un État. Et que donc, une mutualisation de forces, c'est naturellement normal. Mais à l'heure actuelle, puisque le bilan est négatif, le bilan est mitigé, mais qu'en faudrait-il faire concrètement? Je crois que ce qu'on doit devoir faire, c'est d'abord renforcer ce patriotisme dans les chefs des nationaux, le patriotisme dans les chefs des combattants. Je parle cette fois-là des unités combattantes de FARDC. Parce que il se révèle, il se constate que à un certain moment, les militaires ils combattent, ils sont sur le front, mais ils sont dans quel état d'esprit? Quel état de sud dans lequel ils se mettent au front? On dirait les gens sont trop complaisants sur les champs de bataille, et pourtant c'est une question de la nation, une question de la patrie. La patrie, on la défend vraiment d'une manière exceptionnelle. Et cette défense-là nous amène toujours à un sacrifice. Il faudrait que quelqu'un qui est là pour sauvegarder, pour mener la sauvegarde de la patrie, pour défendre la patrie, il doit se dire qu'il a prêté serment de sacrifier pour la cause de la nation. Et là, c'est quelque chose qui, en un moment, on a comme l'impression que ça manque un tout petit peu, dans le chef des nationaux, dans le chef de nos unités combattantes. Et pourtant, il résiste à eux de se sacrifier pour la cause de la nation. Et que donc, moi, à mon avis, je pense que ce qui est plus important à l'heure actuelle, c'est de renforcer cette unité, ce patriotisme et cet amour de la nation, afin qu'effectivement, lorsque les unités combattantes sont sur le terrain, qu'ils puissent la faire. Mais ensuite, l'élément fondamental, c'est aussi cet aspect où on trouve les nationaux dans un groupe étranger ou dans un groupe terroriste.
Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Il concourt dans la destruction systématique de la patrie. Et ça, c'est pas beau. Il faudrait que les gens, les Congolais prennent conscience que cette nation doit se relever. Au fur et à mesure, même s'il y a un petit souci actuellement, la nation doit se relever et nous ne pouvons pas nous-mêmes détruire notre propre nation.
Merci Christian Oteki. On va vous redonner la parole tout à l'heure pour conclure. Professeur Chaubert Aguenunga, on va prendre cette dernière réaction pour vous qui nous vient de Bukavu. Au sud qui vont.
Je réponds par le nom de Maguené Jules, porte-parole nationale du Forum des nationalistes dans la ville de Bukavu. D'entrée de jeu, on peut dire qu'il y a des avancées significatives, car on n'entend plus les affrontements et les cas de morts comme auparavant. Courage au gouvernement congolais et aux militaires pour diverses stratégies qu'ils ont pu donc développer pour anéantir donc ces groupes. C'est pourquoi nous en appelons donc encore au renforcement de stratégies pour mettre fin à tous les groupes qui résistent et d'obéir aux appels du gouvernement congolais. Et bien entendu, nous pouvons aussi appeler la population donc de se mettre ensemble et de ne pas être fatiguée, de conjuguer avec les forces de sécurité pour mettre fin à tous ces actes-là d'atrocité qui ne donnent pas le développement dans notre pays ou dans nos entités.
Professeur, brève réaction.
Oui, évidemment, je pense que ça fait partie... De la problématique sécuritaire à l'est du pays, on constate qu'il y a une certaine rupture pour le moins déconcertante entre civils et population. Il y a une absence brillante de ce que nous appelons le mécanisme d'alerte précoce. Par contre, dans certains cas, on constate même que certains militaires sont devenus même une menace pour la population. Dès lors qu'il n'y a pas une prise en charge efficace, et ça c'est ce qu'il faudrait souligner. Mais revenons sur ce que nous entendons ce dernier temps, par la mobilisation en général, je pense que ce discours manque de contenu. Et se mobiliser signifie quoi? Il faut se ranger derrière le FARDC pour le pousser à mieux combattre sur le terrain. Je pense que le problème de l'armée est connu. Nous avons un problème de déficience, n'est-ce pas, de logistique, de matériel. Les militaires qui sont en train de combattre sur le terrain, ils n'ont pas le moyen logistique qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux en sécuritaire de l'heure. Et à cela, je voudrais aussi ajouter la faible motivation. Les militaires qui se battent au front, nous le voyons clairement, ils se plaignent du fait qu'ils n'ont même pas de l'eau à boire. Et on ne peut pas faire une guerre avec des militaires affamés. Je pense que ça, c'est une entorse flagrante. Mais aussi, les germes, je pense, de la faiblesse de notre armée tient à l'histoire comme un intervenant l'a dit tout à l'heure. Notre armée est issue du brassage et malheureusement la réforme du secteur de sécurité et ça n'est pas suivi. Alors que toutes les solutions que les gens proposent aujourd'hui, mobilisation et que sais-je encore, donc c'est une solution évidemment conjoncturelle alors que le problème de l'armée est structurel. C'est la raison pour laquelle toutes ces approches ont révélé leur inefficacité, n'est-ce pas, en sous le terrain. Mais aussi, et c'est que certains ont tendance aussi à ignorer, c'est que on ne va pas combattre l'insécurité seulement sur le plan national. Dès lors que nous savons que ces mouvements rebelles qui écument l'est du pays ont des ramifications extérieures, et c'est là où je crois que la République démocratique du Congo doit revitaliser sa diplomatie pour obtenir non seulement des sanctions ciblées contre tous ceux qui sont à la base de soutien aux groupes armés et pourquoi pas d'obtenir aussi de pression sur ces acteurs, qu'ils soient des acteurs étatiques ou qu'ils soient des acteurs privés, afin qu'ils renoncent définitivement à soutenir le mouvement subversif qui sème en terreur et désolation à l'est de la RDC.
Merci, professeur Chaubert Aguenunga. En une phrase, il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas résoudre la crise sécuritaire dans la région de l'Est avec des États impliqués dans la déstabilisation de notre pays. Faut-il poursuivre cette opération conjointe FARDC et UPDF lorsque l'on cite l'Ouganda comme étant appui du M23, mouvement rebelle, qui déstabilise aussi la RDC?
C'était rendez-vous manqué avec l'histoire. Je tiens d'abord à souligner le fait que la sous-traitance de la sécurité de la RDC est une entorse flagrante parce que tous les renseignements de la République démocratique du Congo seront à la portée, n'est-ce pas, de pays de la région. Mais il se trouve que ce sont le même pays que nous nous considérons comme nos partenaires stratégiques qui soutiennent les groupes armés. C'est la raison pour laquelle je parlais de l'incompatibilité ou de la divergence d'intérêts. Et ça, c'est un rendez-vous que nous avons manqué avec l'histoire. Et c'est un projet mort-né de paix. Je pense que l'effort que nous devons fournir, c'est d'investir dans notre armée.
Merci.
Donc, il faut entretenir notre armée, il faut davantage investir dans notre armée pour que cette dernière puisse en faire le travail de la sécurité à l'est du pays. Mais c'est aussi longtemps que nous pensons que ce sont les autres qui feront en ce travail, c'est de la mythomanie, nous nous trompons éperdument.
Merci, professeur Chobera Guenunga. Mwindo Nzangi, ça sera aussi votre conclusion. En tant qu'élu de la province du Nord Kivu, vous avez répondu à la question en début d'émission que l'on devrait poursuivre avec ces opérations. Selon vous, ça pourrait prendre combien de temps encore?
Alors, moi, je ne veux pas répondre à cette question. Cette question, il faut que l'état-major réponde, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est notre pays. Ce qui meurt sur le terrain, c'est notre population. Donc, en tant que responsable, on ne peut pas prendre une décision qui va dans le sens d'exposer notre population. Ce que nous devons nous mettre à tête, c'est que nous, Congolais, demain, ne doit plus ressembler à aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes obligés aujourd'hui de pouvoir former une nouvelle armée capable de nous défendre. Et c'est là que j'appelle, effectivement, en répondant à celui qui a parlé de la mobilisation, je crois que la mobilisation, c'est une mobilisation pour tout le monde, pour tous les Congolais. La défense du pays, ce n'est pas une affaire seulement des militaires. Chacun, là où il se retrouve, il a une responsabilité dans la défense de son pays. Et dans l'article 63 de notre Constitution, nous oblige, nous tous, à pouvoir participer à la défense de notre pays lorsqu'il est en péril. Et donc, je rappelle au peuple congolais et à toute la population des restes qui souffrent aujourd'hui, je leur dis, c'est le temps peut-être pour nous de nous mobiliser, de nous autodéfendre, pour que nous puissions aider le gouvernement congolais et l'armée à défendre notre pays.
Merci beaucoup. On va lire quelques réactions avant de vous donner la parole pour la conclusion. Christian Gouteki, Robert Baumé, qui nous écrit depuis Bukavu Sud Kivu. Près d'une année après, on est fait qu'enregistrer presque quotidiennement des massacres, des pillages au Nord Kivu et en Ituri, en dépit des opérations conjointes FRDC et UPDF. C'est une preuve irréfutable que pendant tout ce temps-là, ces opérations militaires congolo-ougandaises n'ont pas suffisamment contribué à l'amélioration de l'état sécuritaire dans cette partie de l'est de la RDC. Fort de cette situation, je pense qu'il y a encore lieu que le gouvernement congolais affine des stratégies beaucoup plus efficaces pour mettre un terme à la rébellion ADF et à l'activisme des groupes armés au Nord Kivu et en Ituri. Emerine Zanzou, l'Ouganda avait un seul objectif pour envoyer ses troupes au Congo, chasser les ADF loin de ses frontières. Un autre pays ne peut pas mettre en jeu ses moyens pour sécuriser les Congolais. Les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et le bon. Et enfin, Isaac Bamporiki, le bilan n'est pas fameux et de plus en plus des suspicions pèsent sur l'Ouganda comme sponsor du M23 aux côtés du Rwanda. L'Ouganda n'a pas intérêt que la paix revienne dans notre pays. Voilà pourquoi il faut repenser les relations avec ce pays. Christian Outeki, conclusion.
Oui, je crois que à l'heure où nous sommes, d'abord, la première chose, c'est que le gouvernement doit prendre vraiment au sérieux les problèmes sécuritaires. Et la prise au sérieux va dans le sens aussi de doter notre armée des moyens conséquents pour assurer la défense de la nation. Il faudrait qu'on puisse assurer aussi la discipline de notre armée, parce que des fois l'attitude de nos militaires tend à démoraliser même la population qui est appelée à l'accompagner. Parce que vous trouverez dans beaucoup d'endroits où les militaires se comportent vraiment des fois d'une manière indigne, à tel point qu'il y a une démoralisation de la population pour lui apporter un appui considérable.
Mais enfin,
ce que je peux donner comme conclusion, c'est aussi d'associer des fois les scientifiques dans des planifications opérationnelles. C'est-à-dire, on associe les théoriciens, les académiciens, ensemble avec les praticiens qui sont les militaires, afin qu'on puisse, ensemble, d'une manière conjoncturelle, définir les cadres opérationnels.
Merci Christian Oteki, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guimaté et Dona Madimba qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Dieudonné Nyangasa a été à la mise en onde, présentation et coordination. Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.